Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawal El Amouchi. Au sommaire, Sophie Adenauf en mission dans la Station Spatiale Internationale est devenue aujourd'hui la première astronaute française à sortir dans l'espace. On y revient dans notre édition. Le fisc annonce une troisième fuite sur des données liées aux successions rapidement coupées, moins d'une semaine après un vol de données sensibles de 700 000 contribuables. Donald Trump a affirmé qu'aucune discussion avec l'Iran n'avait lieu en ce moment. Téhéran a assuré que son verrou sur le détroit d'Ormuz tenait toujours. Nous l'avons évoqué dans les titres, Sophie Adenauf, en mission dans la Station Spatiale Internationale ISS depuis la mi-février, est devenue aujourd'hui la première astronaute française à sortir dans l'espace en compagnie de l'Américain Anil Menon. Les explications avec vous, Inès Gilles.
Eh oui, je suis dehors, je me sens bien dans l'espace. Par ces mots, Sophie Adenauf marque l'histoire des sorties spatiales car elle devient, vous l'avez dit, la première française et la deuxième femme européenne après l'Italienne Samantha Cristoforetti à aller dans l'espace. La NASA a donné le top départ à 14h29 heure de Paris. Une vingtaine de minutes plus tard, l'Américain Anil Menon est sorti, suivi de Sophie Adenauf. Pendant cette sortie, les astronautes doivent remplacer une antenne de communication, la SGANT, essentielle aux échanges de données entre la station et le centre de contrôle de Houston. Une opération préparée depuis plusieurs jours entre vérification des scaphandres et entraînement aux procédures de sécurité. Une opération qui doit durer 6h30. Les images impressionnantes ont défilé tout l'après-midi. On a pu suivre la sortie de Sophie Adenauf grâce à une caméra intégrée dans son casque. Alors, pour être exact, Sophie Adenauf, ingénieure de formation et ancienne pilote d'essai, est la deuxième française de l'histoire à effectuer un vol dans l'espace après la pionnière Claudie Agnoret en 1996 et en 2001. Mais elle est bien la première à réaliser une sortie extravéhiculaire, donc à sortir de la station spatiale. Avec cette sortie, la réaction du président Emmanuel Macron ne s'est pas fait attendre. Adenauf incarne une française autant qu'un horizon pour les petites filles qui rêvent d'infini, a-t-il déclaré. Le dernier français à être sorti dans l'espace est Thomas Pesquet. Il avait d'ailleurs permis de relancer l'intérêt du grand public français pour l'espace.
Merci Inès Gilles pour toutes ces précisions. Dans l'actualité au Moyen-Orient, Donald Trump a affirmé qu'aucune discussion avec l'Iran n'avait lieu en ce moment et Téhéran a assuré que son verrou sur le détroit d'Ormuz tenait toujours. Le Qatar, pays médiateur, a affirmé qu'un accord entre les deux pays sur le détroit faciliterait la reprise des négociations visant à mettre fin à cette guerre au Moyen-Orient. Le plan de paix américain à Gaza pourra-t-il finalement être mis en œuvre en visitant Israël? L'émissaire américain Jared Kushner a dit espérer un début du désarmement du Hamas d'ici 30 jours et des progrès dans la mise en œuvre de ce plan de paix. Vous nous faites le point sur la situation, Inès Gilles.
Et oui, Jared Kushner veut faire avancer le plan Trump, quitte à donner plus de garanties à Israël sur le désarmement rapide du Hamas. Après sa rencontre avec Benjamin Netanyahou, l'émissaire américain a déroulé un calendrier plutôt précis. Nous pourrions constater des progrès d'ici à peine 30 jours avec, espérons-le, le début du retrait d'une partie des armes du Hamas, a-t-il déclaré. Nous ne permettrons pas que Gaza soit reconstruite tant que la démilitarisation n'aura pas eu lieu, je cite. Le désarmement du Hamas pourrait d'ailleurs, comme l'a évoqué hier Israël, être réalisé sous la supervision d'un général américain. Elle pourrait alors s'inscrire dans le dispositif international prévu vu par le plan de Donald Trump. Alors, Washington a déjà nommé le général américain Jasper Jeffers à la tête de la Force internationale de stabilisation, appelée à être déployée dans la bande de Gaza, mais le rôle précis d'un général américain dans le désarmement du Hamas n'a pas encore été confirmé. Après son entrevue avec Benjamin Netanyahou, Jared Kushner a également évoqué le sort des infrastructures souterraines du Hamas. Il espère un comblement de certains tunnels Sentinelle au cours des 60 à 90 prochains jours. Le désarmement, je cite, véritable du Hamas, préalable à tout retrait israélien de la bande de Gaza, est une exigence de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre, en mauvaise posture pour les élections du 27 octobre prochain et sous pression de l'extrême droite, il semble vouloir gagner des points en montrant une position inflexible sur le désarmement du mouvement palestinien. Et ce dimanche, Jared Kushner avait rencontré des membres de la direction du Hamas. Le mouvement palestinien a réaffirmé de son côté son engagement pour mettre en œuvre le plan américain en acceptant de collaborer pour son propre désarmement.
Et l'émissaire américain pour la Syrie, Tom Barak, a attribué à Israël les frappes menées ce matin contre un aéroport militaire syrien en cours de rénovation avec l'aide de la Turquie. Damas dénonce une agression injustifiée. Dans le reste de l'actualité en Afrique, l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo est loin d'être maîtrisée, a alerté le chef de l'Organisation mondiale de la santé, qui met en garde contre un risque élevé de propagation internationale. Et l'ancien international français Patrick Vieira est nommé sélectionneur du Sénégal et succède au Sénégalais Pape Thiaw limogé après la Coupe du Monde, une annonce de la Fédération sénégalaise de football. Dans l'actualité en France, nous l'avons évoqué dans les titres, le fisc annonce une troisième fuite sur des données liées aux successions rapidement coupées, moins d'une semaine après un vol de données sensibles de 700 000 contribuables. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, David Amiel, a présenté des excuses pour ce piratage. Ces mêmes pirates ont annoncé aujourd'hui avoir mis la main sur des données personnelles de plusieurs millions d'élèves français et des dizaines de milliers d'enseignants dans un message publié sur un forum. Dans un tout autre volet, Emmanuel Macron était à Bormes-les-Mimosas ce lundi pour commémorer le débarquement de Provence d'août 1944. Il a annoncé un doublement du budget de l'armée et la promulgation de la loi de programmation militaire qui permettra notamment d'organiser le service national. Je vous laisse écouter le président de la République.
Cette France forte, puissance d'équilibre et de paix indépendante, c'est en effet celle qui est portée par nos forces armées. Sur tous les continents et sur notre sol, à travers tous nos territoires, et c'est celle qui a conduit notre nation à se réengager depuis 10 ans, à doubler le budget de nos armées. Et je me tiens devant vous aujourd'hui, après avoir promulgué hier la loi de programmation militaire que le Parlement a votée il y a quelques semaines et que le Conseil constitutionnel a validée il y a quelques jours, et au journal officiel de demain paraîtra cette loi de programmation militaire. C'est elle qui permettra dès 2027, d'avoir doublé le budget de nos armées, qui permettra 36 milliards d'euros d'investissements nouveaux pour nos armées sur la période 2026-2030, qui permettra dans le cyber, en matière de drones, en matière d'innovation, dans toutes les capacités différentes, de faire davantage d'agir dans les tirs dans la profondeur, comme dans la défense antibalistique, tirant aussi tous les enseignements des changements de la guerre. À la France de se protéger, d'être cette nation aussi qui consolide l'engagement des autres. Et puis c'est cette loi de programmation militaire qui permettra dans quelques semaines d'organiser le service national et qui donnera un cadre à l'engagement de notre jeunesse.
Le président de la République, Emmanuel Macron. Cet été, les effets du réchauffement climatique sont plus visibles que jamais, avec des épisodes de chaleur plus fréquents, plus longs et plus intenses. Alors, comment adapter nos villes, nos modes de vie et nos territoires à un climat qui se réchauffe déjà ? À notre micro, le climatologue Philippe Drobinski.
D'abord, il faut sortir de ce que j'appelle la culture de l'urgence et de la réaction. On est capable de mettre en œuvre des moyens pour pallier l'urgence d'une situation de crise, mais on n'est clairement pas dans l'anticipation. Et malgré les 30 ans de rapport du GIEC dans lequel tout est écrit, quelque part, on n'est clairement pas adapté au réchauffement climatique. Donc la première priorité, il y a déjà le côté chaleur. Hein, et clairement, là, les territoires les plus vulnérables sont en particulier les villes. Donc il faut adapter les villes à la chaleur, hein, végétaliser, désimperméabiliser, créer de l'ombre, développer des refuges de fraîcheur, comme ça se fait beaucoup en Espagne, adapter les bâtiments, les écoles, les hôpitaux. Bien sûr les horaires de travail, hein. L'enjeu n'est pas seulement le confort, hein, c'est un enjeu sanitaire et puis de justice sociale. La deuxième priorité, c'est faire de l'eau une question transversale d'aménagement. Il faut réduire les consommations et les fuites, améliorer l'efficacité des usages agricoles et industriels, restaurer les sols et les zones humides, favoriser l'infiltration et puis définir en fait collectivement les priorités lorsque la ressource devient insuffisante, comme ça peut l'être actuellement. Ensuite, moi je vois une troisième priorité, hein, c'est d'adapter les territoires aux risques comme je l'ai dit, plutôt que simplement réparer après chaque catastrophe. Et surtout, réparer, c'est plus le bon mot. Il ne faut pas réparer à l'identique. Il faut vraiment réparer, reconstruire et adapter dans un climat qui n'est pas celui d'aujourd'hui, mais qui est celui de 2050 ou de 2100. Et enfin, voilà, c'est finalement ma quatrième priorité, mais c'est juste une continuité de ce que je viens de dire, c'est clairement, il faut dimensionner toutes les adaptations pour le climat futur et non celui d'aujourd'hui, quoi. Une infrastructure, en fait, qui est construite aujourd'hui sera encore utilisée en 2050 ou 2080. Une forêt plantée aujourd'hui sera encore là à la fin du siècle, et donc il faut adapter. Et adapter consiste donc à regarder devant nous et pas dans le rétroviseur.
Philippe Drobinski, climatologue, il sera l'invité d'Inès Gilles dans le Grand Angle ce soir après le flash de 18h. Et enfin, on l'a appris aujourd'hui, Yvette Roudy, la première ministre des droits de la femme entre 1981 et 1986, est décédée à Cabestany, dans les Pyrénées-Orientales, à l'âge de 97 ans, selon son neveu Jean-Pierre Saldou. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.